Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir, je dirais le privilège, d'accueillir le président Ernest-Antoine Sellière pour sa récente parution chez Alma au titre Décapant, emprunté pour la circonstance à Boris Vian. On n'est pas là pour se faire engueuler. Cher président, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici un petit peu chez vous, ne serait-ce que parce que vous êtes intervenu à plusieurs reprises sous la coupole, si mes souvenirs sont bons, et puis aussi parce que vous avez aussi en mémoire que votre grand-père paternel était donc académicien et vous gardez de lui un souvenir très présent et très chaleureux. Donc, bienvenue chez nous. Alors, je ne vais pas présenter plus avant le patron des patrons qui a dirigé le MEDEF pendant 7 années qui ont marqué son histoire. L'énarque, le diplomate, l'entrepreneur, le président de Wendel. En quelque sorte, vous êtes dans l'espace public.
Oui, j'ai eu la chance, en effet, d'abord en tant qu'ancien de l'ENA, d'avoir mon temps dans la fonction publique, et puis ensuite, en effet, de basculer dans le monde de l'entreprise, où je me suis, comment dirais-je, pas mal démené, à la fois pour remonter le groupe Wendel, qui était en très tristes conditions, et puis également, en effet, pour représenter les entrepreneurs.
Alors, cette parution est un événement attendu et très remarqué, car si beaucoup ont écrit sur vous, curieusement, vous n'avez pas beaucoup écrit auparavant. De mémoire, je ne pense pas que vous ayez beaucoup fait paraître d'ouvrages.
Non, Jean Botterel et son collègue Sassier ont fait sur moi un livre qui s'appelle « Le baron de la République » et dans lequel je m'étais pas mal exprimé, mais ça n'était pas un livre de ma plume.
D'accord. Alors, cette discrétion des grands patrons est assez classique. Ils peinent à se découvrir, et en tout cas, ils le font généralement tardivement. Alors, est-ce que vous pensez que dans ce contexte où la communication est tout, c'est une bonne chose pour les patrons, les grands patrons, comme on dit aujourd'hui, d'être à ce point discret?
Très honnêtement, non, je le leur reproche. Je le leur ai beaucoup reproché quand j'étais moi-même président du MEDEF et qu'ils étaient en fonction. Parce que si on veut faire comprendre à l'opinion notre point de vue, il faut bien entendu l'exprimer. Alors beaucoup, en effet, de chefs d'entreprise, de responsables de grandes entreprises notamment, ne trouvent pas de leur intérêt, ni de l'intérêt de l'entreprise, d'entrer dans je ne sais quelle polémique qui ne touche pas directement à l'objet de leur entreprise. Mais nous manquons de ce fait d'exprimer, et d'exprimer, je dirais, avec clarté et vigueur, des thèses qui sont absolument indispensables à connaître si on veut évidemment comprendre le monde dans lequel nous sommes et ne pas s'en remettre à ce qu'on appelle la pensée unique que je connais bien et qui est évidemment très hostile à beaucoup des thèmes chers aux entrepreneurs.
D'accord. Alors revenons, si vous le voulez bien, à votre ouvrage qui appartient, je peux en témoigner, à cette lignée trop rare des livres qui vous saisissent dès la première page et que vous ne pouvez quitter qu'après les avoir épuisés. Pour preuve, je voudrais lire un extrait de votre prologue. J'ai eu, dites-vous, un parcours à la française où se sont succédés des temps de fonction publique, d'entreprise, d'Europe et depuis maintenant une quinzaine d'années, du fait de mes engagements professionnels et civiques, je fais l'objet de l'intérêt des médias. Rien de plus naturel pour ceux-ci que de se mettre en chasse dès lors que l'on sort du bois dans lequel bien d'autres animaux de notre douce France, petits et grands, se tiennent tranquillement à l'ombre des futaies pour mener leur existence. Je crois que le ton est donné. Et si j'ajoute très très brièvement ce que vous dites à la deuxième page, à travers articles, chroniques, reportages et émissions de tout poil sur les ondes ou dans les lucarnes, je suis un des actionnaires d'une famille industrielle tricentenaire, donc un Richard insolent. Un ancien de l'ENA, donc un technocrate froid. Président d'une grande société cotée, donc un financier avide. Un fondateur du MEDEF, donc un patron arrogant. De droite, donc un réactionnaire archaïque. Chrétien, donc un cubain hypocrite. Baron, donc un aristocrate méprisant. J'oubliais, je suis personnellement associé comme investisseur au risque et au bénéfice de l'entreprise. Je suis responsable et je suis donc en plus un dirigeant douteux à mettre derrière les barreaux. Je crois que là, c'est difficile de ne pas dire que le ton est donné.
Oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, avec la pointe d'humour de choisir le titre d'une chanson. On n'est pas là pour se faire engueuler. C'est vrai qu'en France, d'une manière générale, on est trop heureux de saisir ceux qui exercent des responsabilités, qui dans la société, je dirais quand même, sont les responsables à la fois dans le domaine politique, économique, souvent d'ailleurs dans le domaine culturel, eh bien, excusez-moi du terme pas très académique, on les engueule, eh bien c'est vrai qu'on en a quelquefois assez.
D'accord. Alors, donc au fil des pages, on trouve un certain nombre de témoignages, de souvenirs, d'anecdotes, bien sûr sur le ton de l'humour, on vient d'en avoir la preuve à l'instant, mais aussi au détour des pages, des convictions fortes, des réflexions en profondeur, et vous levez une partie du voile sur aussi l'homme et quelquefois son intimité, ce qui est en fait une grande première. Le vrai Sellière apparaît quelquefois au fil des pages. Vous êtes donc ce même spectateur engagé qui a été immortalisé par Raymond Aron en disant des choses sérieuses sans vraiment vous prendre trop au sérieux. Alors, ce qui est extrêmement remarquable, c'est que partout, on trouve un optimisme de fond, chevillé au corps. Alors, parlons de cet optimisme, qu'est-ce qui fait que, alors c'est peut-être le propre aux entrepreneurs, vous allez nous le dire, que toutes les menaces qui pèsent sur le commun des mortels, la mondialisation, l'Europe qui flanche, la crise, etc., eh bien, en fait, vous regardez tous ces événements avec plutôt une espérance positive, une transformation positive. Alors, d'où vous vient cet optimisme ?
Eh bien, cet optimisme me vient d'abord, si vous voulez, de l'admiration que j'ai pour quelqu'un, je suis pas le seul, qui est le général de Gaulle, c'est-à-dire pour le 18 juin 40. C'est-à-dire vraiment quand tout se liguait pour déterminer de façon la plus totale et la plus profonde que c'est, excusez-moi du terme, foutu, ouais. un homme seul dit, eh bien non, je relève. Et ça, cette attitude-là, si vous voulez, et quelque chose que j'admire profondément, d'ailleurs je pense que ça a sauvé la France, mais dans mon expérience personnelle, j'ai connu en fait, bien entendu à mon modeste échelon, une expérience similaire, quand le groupe Vindel, le groupe tricentenaire, qui était le premier producteur français d'acier depuis des siècles en quelque sorte, a été nationalisé d'ailleurs, je le dis avec humour, par la droite, ce qui est quand même rarissime.
Un comble.
Et un comble, et qui n'a pas fait plaisir. Et donc j'ai, à ce moment-là, été invité par mes parents lointains d'ailleurs, à savoir si je voulais prendre le défi de reconstruire un groupe Vindel à partir de ce qui était devenu pratiquement rien du tout. Et j'ai senti à ce moment-là, si vous voulez, quelque chose d'un peu similaire. Et ce groupe ayant, avec les décennies passées, repris, je dirais, de l'importance dans l'économie française, j'ai l'impression que ça a été la bonne attitude. J'ai eu d'ailleurs la même impression quand j'ai été appelé, je dirais, par les circonstances à devenir président du patronat français à un moment où celui-ci était également, je dirais, complètement au tapis, puisque c'est le jour, on s'en souvient peut-être,
Gandois
a dit « j'ai été berné » quand la loi lui a imposé les 35 heures et qu'il a démissionné à ce moment-là, et j'ai senti à ce moment-là que le patronat était au fond, non pas du gouffre, mais enfin je dirais au tapis, et que ça valait le coup d'essayer de le relever. Donc si vous voulez, de tempérament, j'aime bien les difficultés qui font que quand on croit que ça ne va pas marcher, il y a un optimisme fondamental qui vous dit intuitivement le contraire. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai la même impression sur la situation actuellement, à la fois de notre pays et de l'Europe, dont je connais bien les difficultés, j'ai lu en effet, toutes les analyses, tous les livres qui ont été écrits et qui sont en fait des recueils de déclinologie dans lesquels on analyse intelligemment, d'ailleurs, avec des faits qui sont indéniables, les raisons pour lesquelles ça va mal, mais je ne le ressens pas intuitivement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer de mettre un peu, je dirais, noir sur blanc, en y mêlant des anecdotes et quelques, en effet, aperçus de ma personnalité, de dire, voilà pourquoi je crois que le monde qui vient devant nous, en dépit des difficultés du moment, est un monde qui va être passionnant et dans lequel, bien entendu, j'appelle les Français et les Françaises à bien vouloir se décider à en être. Et je crois que c'est ça, un petit peu le message de ce livre, si vous voulez, c'est de trouver et de chercher les raisons pour lesquelles il ne faut pas, derrière les difficultés du moment, craindre de regarder l'horizon de l'avenir en se disant « soyons en mesure de participer aux aventures qui vont être celles du monde qui vient ».
Alors, nous allons y revenir. Vous indiquez dans un de vos chapitres toute votre satisfaction, vous venez de le dire, à avoir permis la transformation de l'ancien CNPF du patronat vers l'entrepreneur, hein, c'est un petit peu ce que vous avez conduit, en accompagnement de ce capitalisme des talents. Alors ça, c'est une grande satisfaction, mais en parallèle, vous notez et vous déplorez cette dégradation de l'image des dirigeants et de l'entreprise qui a atteint son point majeur au cours de ces dernières années. Alors, selon vous, aujourd'hui, que faire pour rejoindre cette logique de l'honneur que Philippe Diribarne a mis en avant, l'exemplarité? Quelles sont les voies de cette logique de l'honneur pour retrouver cette légitimité qui semble s'être un peu éloignée de l'entreprise et des dirigeants?
Oui, alors je fais pour cela une analyse qui n'est pas du tout pédante et qui est rapide du capitalisme, en essayant, si vous voulez, de regarder très rapidement quelle a été son évolution. On est parti d'un capitalisme, je dirais, des propriétaires, très agricole, dans lequel le propriétaire s'estimait tous les pouvoirs, parce que ça lui appartenait, qui bien entendu assez rapidement s'est fortement nuancé avec l'apparition du syndicalisme, je dirais de l'approche sociale, donc on a équilibré le capitalisme à ce moment-là par une approche sociale. Et puis ensuite, vous avez eu le capitalisme des managers, parce que finalement, les propriétaires, devant la complexité de la gestion, ont remis à des managers et délégué, je dirais, la responsabilité de l'entreprise. De là, on est passé à un capitalisme où les actionnaires ont joué un rôle beaucoup plus important, en recherchant en effet de la rentabilité, et bon, ce sont les dernières décennies, et puis finalement peut-être un capitalisme alors plus financier, dans lequel, je dirais, l'appât de la plus-value l'a quelquefois en effet emporté sur la mission du producteur. Voilà, et alors je dis, où en sommes-nous? Eh bien, je crois que nous en sommes à un moment où, en réalité, la crise a prouvé qu'il n'y avait pas, en fait, d'alternative à ce système, et que même si on le réprouvait, il était devenu absolument totalement mondial, sauf Cuba, et peut-être, en effet, la Corée du Nord, mais enfin, vraiment, c'est un système mondial, que ce système mondial, qui n'est pas une idéologie, mais qui est un pragmatisme, et un pragmatisme capable, évidemment, de s'adapter sans cesse, est à la veille, en fait, de devenir bien meilleur. Sur deux aspects. D'abord, parce qu'il appelle de la régulation. Il sait bien, en effet, que la main invisible ne suffit pas. Il faut pouvoir encadrer un système, encore une fois, devenu mondial, et qui a à sa disposition d'immenses moyens technologiques. Il faut donc le réguler, et l'aspiration à la régulation, elle est partout. Elle est aussi bien chez les entrepreneurs que dans les gouvernements, que bien entendu chez les intermédiaires et les forces syndicales. Donc on va vers un capitalisme régulé. Et on pourra regarder quels sont les éléments de cette régulation. Oui. Et puis on va vers un capitalisme que j'appelle les talents. Parce que finalement, le capitalisme, c'est tellement un appel à la compétition que ce qui sort actuellement comme la tendance majeure, c'est de pouvoir garder, recruter, organiser des talents. Et c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire dans la compétitivité. On reproche souvent, bien entendu, les charges, les coûts, bon, bien sûr, mais ce sont quand même les talents. Et les talents, ça va à la fois, je dirais, sur le talent professionnel et surtout sur le talent humain, c'est-à-dire la capacité qu'on a de vouloir réussir, de vouloir l'emporter sur les marchés, sur la compétition. Donc moi, je suis en effet un partisan de ce que j'appelle sans détour le capitalisme. On pourrait peut-être en effet être plus pudique et dire l'économie de marché, ou que sais-je, mais c'est quand même un système qui, depuis maintenant plusieurs siècles, a généré un immense progrès humain et un enrichissement général, la modernisation de tout, l'innovation, évidemment, qui a secrété d'infinis et immenses moyens à chacun de se prouver dans la vie. Bref, je suis en effet partisan du capitalisme, je crois qu'il est sur la bonne voie, et je pense que parce qu'il est sur la bonne voie, et qu'en réalité il n'y a pas de système alternatif, le marxisme est complètement enterré, et ceux qui sont des indignés, et que je respecte beaucoup, parce que personne n'est forcé, bien entendu, d'admirer le capitalisme, mais les indignés, si vous voulez, ils protestent sans rien proposer, et il n'y a pas, je dirais, actuellement, de modèle alternatif. Voilà la raison pour laquelle je pense en effet que ce monde capitalisme de demain, qui va durer tout le XXIe siècle et qui va l'emporter, est un monde dans lequel il y aura d'immenses aventures et opportunités.
Deux questions secondaires sur ce que vous venez de dire. La première, vous disiez, bon, ce capitalisme, il faut le réguler, mais pour faire de la bonne police, il faut des bons policiers. Vous croyez qu'on a des bons policiers aujourd'hui?
Ben, si vous voulez, la première force que je vois dans les décennies qui viennent est celui, en effet, d'une société de marché mondialisée. Je vois également, si vous voulez, que l'organisation de ce monde globalisé est en train de se mettre en place. Alors, c'est lent, c'est aléatoire, mais c'est tout à fait net. De même qu'au lendemain de la guerre, si vous voulez, après toutes ces atrocités, on a mis en place aux Nations Unies un système international qui est peut-être déficient, mais qui fonctionne quand même pas mal. De même, on voit apparaître avec les G8, les G20, et puis surtout avec les moyens de communication quotidienne des dirigeants du monde entier entre eux, parce qu'on ne sait pas, si vous voulez, avec quelle intensité, bien entendu, tout le monde se parle. Autrefois, il fallait convoquer je ne sais quelle conférence qui durait des mois et des mois. Aujourd'hui, les vidéoconférences, les appels téléphoniques entre les dirigeants du monde entier sont constants. Et donc, en fait, nous allons avoir un monde globalisé qui va institutionnellement s'organiser, pour traiter d'ailleurs des sujets qui sont devenus intraitables au niveau national ou régional, comme par exemple, bien sûr, tout ce qui est commerce et monnaie, mais également ce qui est terrorisme, ce qui est Internet, ce qui est pandémie, ce qui est évidemment la menace climatique et les atteintes écologiques par la rareté des matières premières. Tout ceci, si vous voulez, c'est du foin pour le cheval mondial qui se met en place pour chevaucher l'avenir.
Alors, peut-être un dernier regard sur le capitalisme, ce nouveau capitalisme totalitaire, l'économie socialiste de marché, quel est le regard que vous portez sur la Chine ? Puisqu'en fait, ils ont inventé un nouveau capitalisme.
C'est la chose la plus paradoxale du monde que de penser que vraiment une immense nation vraiment adonnée au communisme, et un communisme que l'on jugeait véritablement idéologique et totalitaire, a retenu et met en œuvre un capitalisme du type, je dirais presque, du premier stade, c'est-à-dire celui dans lequel on célèbre l'enrichissement, on investit en masse dans les infrastructures, enfin nous sommes sous Napoléon III, c'est-à-dire les Pereires, les Fould, les Blanchy seraient à l'aise, et les Rothschild, aujourd'hui à Shanghai.
Mais il n'y avait pas le Parti communiste à cette époque.
Le Parti communiste, d'ailleurs, veille à ce que cet ensemble, non seulement, je dirais, se généralise sur l'ensemble de la Chine, mais également se régule. Probablement le capitalisme le mieux régulé du monde actuellement est celui du capitalisme chinois. Donc tout ceci montre à quel point, si vous voulez, cette forme tout à fait, je dirais, humaine de pratiquer l'économie, parce que finalement elle se fonde non pas, comme on le dit, sur le profit et le désir d'exploiter l'autre, mais sur le désir de s'accomplir dans une aventure, l'esprit d'entreprise, qui est finalement une alchimie assez difficile à définir et très personnelle entre l'esprit d'équipe, la volonté d'innover, la volonté, bien entendu, de conquérir. Mais c'est une démarche qui est profondément humaine et qui révèle les individus et leur donne leur chance. Et je suis toujours, en effet, très, très étonné de voir que l'immense Chine communiste est le capitalisme mondial type, j'y reviens, Napoléon III.
D'accord. Alors, revenons en France. Vous dressez un tableau des grandes rencontres de personnages que vous avez fait au cours de votre longue carrière. Et avec un regard gaulliste, vous l'avez dit tout à l'heure, tour à tour, on voit passer Mesmer, Chaban, Delors, en essayant de ne pas trop les égratigner. Je crois que c'est assez dans votre volonté. Par contre, Martine Aubry, elle ne trouve toujours pas grâce. À vos yeux, les 35 heures, décidément, ça ne passe pas. Et je dirais qu'ils reviennent dans l'actualité.
Écoutez, c'est vrai que je dis dans ce livre que j'ai du respect pour les politiques, parce que je pense d'abord qu'il en faut, et qu'ensuite c'est un métier difficile, et que la plupart de ceux qui le font avec, en fait, une grande foi et un grand dévouement. Et souvent, d'ailleurs, de très grandes capacités et qualités. Alors, bien entendu, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. J'ai été très à l'aise avec l'ensemble des compagnons de la Libération que j'ai servis, parce que les quatre ministres que j'ai servis étaient tous compagnons de la Libération, ce qui m'a beaucoup, en effet, plu. Et puis ensuite, alors, comme président du MEDEF et représentant des entrepreneurs, j'ai été sous l'époque un gouvernement socialiste, puisque c'était le gouvernement de Jospin, et avec Martine Aubry comme ministre du Travail.
Jospin étant votre compagnon.
Jospin était en effet mon compagnon de l'ENA, et nous avons d'ailleurs une grande camaraderie, même si nos voix ont été assez divergentes sur le plan, en effet, de l'impact sur la société française. Enfin, lui a très 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 bien réussi, et moi beaucoup plus modestement. Mais cela dit, c'est vrai que Martine Aubry, je le dis dans le livre, et ceux qui l'ont vu s'en sont amusés, j'ai dit qu'elle m'épatait, parce que les 35 heures étaient une idée folle, et elle a réussi à convaincre assez généralement la société française que c'était une très bonne chose et qu'il fallait la mettre en œuvre sur la base d'un slogan qui m'a toujours, en effet, absolument sidéré et contre lequel j'ai eu beaucoup de mal, en effet, à installer des contre-feux, parce qu'il était vraiment très astucieux, et que je vous rappelle, parce qu'on le voyait dans les journaux, à la télévision, et on l'entendait dans les radios, etc. C'était du temps pour moi, c'est-à-dire je rentre chez moi, je lis, je m'occupe des enfants, je jardine, du temps pour moi, un travail pour les autres. Plus on était paresseux de soi-même, plus on était solidaire d'autrui. Alors ça, vous allez dire que cette moralisation de la paresse m'a toujours paru, en effet, extraordinaire.
C'est redoutable. Alors, on en vient à la dernière partie, pour peut-être la partie la plus touchante. Vous abordez les choses dont on ne parle pas. C'est comme ça que vous donnez le titre à ce chapitre, en brisant au passage une forme de tabou, vous le dites vous-même, sur le thème des convictions religieuses. Alors, Dieu vous a fait cette grâce de vous donner la foi. Vous êtes un catholique pratiquant, convaincu, dans la logique d'une tradition familiale, mais avec une quête de spiritualité sincère et personnelle, une ouverture par ailleurs sur votre jardin au passage d'une méditation dans votre château familial d'Ognon. Alors, tandis que Comte Sponsville, lui, de son côté, dans la même recherche de quête de spiritualité, a trouvé une spiritualité sans Dieu, vous vous affirmez votre foi en disant que c'est votre force et votre vérité. Alors, comment s'accommode le grand patron que vous êtes de cette foi très sincère et très fervente, des décisions douloureuses que tout capitaine d'industrie est amené à prendre au plan de l'humain, qui apparaissent en tout cas au moins de l'extérieur, toujours, si vous me permettez l'expression, pas toujours très catholique?
Oui, j'ai décidé en effet de consacrer un chapitre à cette question de la foi et à m'avouer, si vous voulez, à faire mon coming out de la foi. C'est à peu près d'ailleurs l'impression qu'on a en le faisant dans la société française actuelle, dans laquelle on a, sous l'étiquette de laïque, en fait, installé une sorte d'interdit de parler de religion, en tout cas de parler de religion chrétienne. Et j'ai donc décidé de m'ouvrir là-dessus. Alors, d'abord parce que c'est vrai que l'entrepreneur, et puis ce qu'on appelle le riche d'une manière générale, est tout de même en effet suspecté d'être dans un métier et dans un état qui ne lui donne pas facilement accès, en effet, à la bienveillance divine. Et je trouve que ceci est profondément injuste. Alors je me suis amusé à dire que peut-être Jésus, après tout, qui était charpentier et qui a été tout de même actif jusqu'à 33 ans dans son métier, avait peut-être développé une petite PME.
Et tout à fait.
C'est en effet quelque chose qu'on m'a pas reproché, mais enfin, on va dire peut-être pas nécessaire. Mais enfin, ça m'amuse de dire en effet que pourquoi, en effet, aurait-on un poids moral à être entrepreneur? Alors, je rappelle d'ailleurs dans ce livre une expression d'un socialiste de mes amis, et qui était fort bien en cours d'ailleurs, et qui un jour m'a dit cette parole absolument stupéfiante. Il m'a dit, écoute, arrête, en morale, c'est toujours le plus pauvre qui a raison. Alors, je ne crois pas à ça. Je pense que Dieu sera juge de tout un chacun. D'ailleurs, probablement plus de ses intentions, selon moi, que des faits et réalités de la vie, parce que c'est vrai qu'on est entraîné, quelquefois, dans de mauvaises pentes. Et enfin, je veux dire, ça existe. Et je pense que c'est l'intention. Alors, je le relis, si vous voulez, ce thème de l'intention regardée par Dieu plus que le fait générateur aux yeux des hommes de, je dirais, sanctions morales ou non, pour dire, je crois, et c'est en tant qu'entrepreneur et très engagé dans l'entreprise que je dis cela, je crois que ce qui est très important, si on doit prendre des décisions qui vont en effet avoir des aspects très négatifs pour les employés, je pense par exemple à la fermeture d'une usine ou d'un licenciement, faut qu'au fond de soi, l'intention soit bonne. C'est-à-dire qu'on le fasse en sachant qu'on le fait pour les bonnes raisons et qu'on ne les fait pour les mauvaises. Je n'ai pas hésité d'ailleurs dans mon livre à dire que ce qu'on appelle les licenciements boursiers, c'est-à-dire de, dirais, de l'appauvrissement humain de l'entreprise en vue d'en valoriser plus, je dirais, la valeur boursière, qui est rarissime, mais
oui,
que j'ai toujours dénoncé comme étant à la base d'un allègement d'effectifs, eh bien, que le licenciement boursier, s'il est dans l'intention, n'est pas en effet une bonne chose, et que Dieu, sans doute, un jour, en effet, aura peut-être un jugé mal. Tout ceci, bien entendu, est très personnel, complexe, n'est pas fait d'ailleurs pour affirmer une vérité à partager nécessairement avec d'autres, mais c'est surtout le geste, je dirais, qui consiste à dire « je parle de l'économie, je parle de la politique,
je parle
de l'écologie, eh bien oui, je parle de la religion, je parle de Dieu, je parle de ma foi, c'est normal et c'est pas normal, en effet, que ce soit une sorte de tabou de ne pas le faire. »
Juste, je reprends une phrase de ce chapitre que je trouve remarquable. Être chrétien, c'est, entre autres choses, nourrir des regrets et des remords de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on sait être le bien. Ça reprend tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, nous allons terminer cet entretien, je ne veux pas qu'il soit trop long, peut-être en faisant le classique dégagé sur l'Europe et sur l'actualité. Alors là, vous vous affirmez comme un Européen convaincu en disant que, en résumé, qu'il n'y a pas d'autre issue que l'Europe pour la France Et le défi pour la France, dites-vous, c'est sa capacité à faire que l'Allemagne s'arrime à ce grand projet européen, plus peut-être qu'elle ne fait aujourd'hui.
Oui, au terme de cette campagne présidentielle, on a agité bien des choses. En réalité, je note que l'essentiel n'a été pratiquement pas abordé, à savoir l'engagement sur le pas en avant politique absolument indispensable en Europe, si on veut que cette construction qui a maintenant 50 ans et qui a quand même déjà généré énormément de communautés, énormément d'institutions communes, qui comptent déjà très lourd, qui est un travail remarquable qui a été fait, mais qu'il faut achever, d'autant plus qu'il est aujourd'hui menacé. Il est menacé par le fait qu'il y a une crise monétaire autour de l'euro qui ne peut être corrigée que par, je dirais, un pas dans le sens de ce qu'on appelle un fédéralisme, encore une fois, osons utiliser le mot. Et je crois savoir, comme beaucoup, que si la France venait à commencer de vaciller comme l'Espagne, l'Italie, etc., on commençait de le faire, eh bien l'Allemagne ne viendrait pas au concours de la France sans imposer un pas en avant de type fédéral en Europe, de façon à se garantir, je dirais, contre les laxismes et les erreurs et les facilités de gestion nationales dans le domaine notamment budgétaire. Alors, cet enjeu-là est capital, il passe par un accord franco-allemand, mais si on imagine qu'il puisse y avoir en effet une divergence entre les deux pays sur ce thème et qu'on ne s'accorde pas, alors l'Allemagne décidera que son jeu mondial d'avenir n'est plus arrimé à l'Europe, mais dans un jeu, je dirais, plus individuel. Et à ce moment-là, je juge que notre pays, la France, aura terminé son grand parcours historique et sera, je dirais, sans vision stratégique, laissée à elle-même, et je pense en effet dans une forme de chaos social et politique. Donc l'enjeu du pas en avant européen, qui dépend d'ailleurs de l'accord entre notre nouveau président et la dirigeante allemande, entre Hollande et Merkel, est quelque chose d'absolument central, et je pense que Sarkozy, s'il avait été élu, sur la lancée de ce qu'il avait fait précédemment, aurait eu une conscience parfaite de ce problème et aurait travaillé dans le sens de le résoudre. Avec l'arrivée d'un nouveau venu, je ne préjuge de rien, mais enfin, c'est moins d'assurer.
Oui, d'autant que votre compagnon de route, Denis Kessler, disait tout récemment son inquiétude sur les premiers signaux qui sont donnés en termes de dépenses publiques, de retraites, etc. Et sans pour autant être très clair sur ce qui devrait être l'objectif numéro un, la maîtrise des dépenses publiques. Vous avez cette inquiétude ?
Oui, enfin si vous voulez, je ne peux pas croire qu'un président qui dit « je me sens, je dirais, représentant d'un grand pays, la France, et je me sens parfaitement, je dirais, dans la responsabilité », puisse de près ou de loin douter du fait que la survie de la construction européenne, qui n'est possible que par le pas en avant de type fédéral voulu par la France et l'Allemagne, je ne peux pas penser qu'il n'ait pas ça, je dirais, comme un objectif de quinquennat. Je pense que s'il va dans l'autre sens, s'il laisse les choses aller, alors vraiment notre pays a de vraies inquiétudes. Je ne le pense pas. Je pense qu'on aura de la tension et de la crise, oui. Mais je pense que la solution, elle sera finalement trouvée.
Laissons un peu de temps au temps, donc. Monsieur le Président, merci encore. C'était vos convictions à travers votre parution, absolument remarquable. On n'est pas là pour se faire engueuler, qui vient de paraître chez Alma, 221 pages pour 15 euros. Je précise d'ailleurs que les droits iront directement de cette parution, seront versés au groupe hospitalier Croix-Saint-Simon. Une autre raison supplémentaire pour nos auditeurs de se le procurer très rapidement. Nous avons découvert le vrai Célière, je vous en remercie.
Merci à vous de m'avoir fait venir et m'avoir donné l'occasion, en effet, de m'exprimer très agréablement. Grand honneur.
Merci pour vous.